Match World également. Et j'aurai la chance d'inviter Sophie Tahakov qui s'occupe de la compagnie danse Anouskan qui se trouve à Sainte-Marie-des-Terreaux. Nous parlerons donc de danse. Oui, je fais un calendrier régressif. Le jeudi 22 novembre, eh bien, nous aurons un séminaire de recherche à la salle d'ensemble du Conservatoire supérieur de Lyon par Philippe Cassard autour du piano de Debussy à partir de 11h du matin. Renseignez-vous, parce que ce sont des plans gratuits si vous aimez la musique classique. Voilà, c'est Système D pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer la culture. La culture peut venir gratuitement. Donc au CNSMD de Lyon, c'est le conservatoire qui se trouve sur les quais de Saône en face des subsistances. Et si vous tapez CNSMD de Lyon, vous trouverez tous les concerts, notamment ceux qui sont gratuits. Et même ces masterclass et ces séminaires de recherche sont accessibles. Et le mercredi 21 novembre, également à 20h, salle Varèse, un concert de Debussy. Donc salle Varèse est une salle de concert du CNSMD. Depuis sa définition au IIIe siècle, avant Jésus-Christ, par Archimède, dans son traité de la mesure du cercle, où il établit que le rapport de la surface d'un disque au carré de son rayon est égal au rapport de son périmètre à son diamètre, le nombre pi n'a cessé de fasciner les hommes. En octobre 2011, les Japonais Alexandre J.I. et Shigeru Kondo battaient le record du monde de calcul de décimales de pi avec 10 millions de décimales après 361 jours de travail, soit plusieurs téraoctets de données. Un autre record fut battu en 2005 par le Chinois Chao Lu, qui est parvenu à mémoriser 67 890 décimales de pi. Un an plus tôt, Daniel Tamet battait le record européen à Oxford à l'occasion du Pi Day 2004, où pendant 5 heures et 9 minutes, il a égrené les 22 514 premières décimales. Alors, on ne va pas apprendre les 22 514 premières décimales, mais est-ce que vous savez ce qu'il y a après 3,14? Eh bien, il y a 15. 3, 14, 15, 92, 65, 35. La voix de Billie Holiday que vous écoutez. Le premier morceau, c'était What a Little Moonlight Can Do, et là, c'est A Sunbonnet Blue and a Yellow Straw Hat.
In the shade of the old apple tree, a sunbonnet blue and a yellow straw hat, decided to say I do. So they rode to June in glory on a bicycle built for two. Years have passed, the song's old, the summer days are among the gold, they still say I love you. A sunbonnet blue and a yellow straw hat are true to this very day, for he loves her in December as he did in May.
Le système solaire. Le système solaire est un système planétaire situé dans la Voie lactée, notre galaxie. Il se trouve proche de sa périphérie, à environ 28 000 années-lumière du centre galactique. Il est composé de divers éléments. Une étoile en son centre, c'est bien sûr le Soleil. Énorme boule de feu brûlant en continu de l'hydrogène par fusion nucléaire et dégageant ainsi l'énergie sans laquelle la vie n'existerait pas sur Terre. Des planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont les planètes les plus proches du Soleil. Elles sont caractérisées par leur petite taille, leur petite masse, leur haute densité et leur surface rocheuse. Des planètes géantes ou gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont plus éloignées du Soleil, sont très massives et volumineuses, mais peu denses. Leur atmosphère est composée d'hydrogène. Elles sont escortées par de nombreux satellites et sont toutes ceintes d'anneaux. Des planètes naines, Cérès, Pluton, Eris, Makemake et Oméa. Cette catégorie a été établie par l'Union Astronomique Internationale en 2006. Des astéroïdes, on estime qu'il existe plusieurs milliards de ces petits rochers qui orbitent entre Mars et Jupiter. Des comètes, ce sont des petits corps constitués d'un noyau de glace et de poussière. Elles seraient rassemblées dans un réservoir aux confins du système solaire. Parfois des perturbations causées par des étoiles proches déséquilibrent ces noyaux, qui quittent leur orbite. Certains sont attirés par le Soleil, dont les radiations subliment la glace qui les recouvre, provoquant ainsi l'apparition de la queue caractéristique des comètes.
Thank you.
êtes toujours sur les ondes de Radio Canus 102.2 dans l'émission Patchworld et vous écoutez un extrait de Sonny Rollins. Et le titre, c'est Sonny Moon for Two. D'identité du Soleil. Distance de la Terre, 149 600 000 km. Rayon moyen, 696 000 km. Température de surface, 5800 degrés Celsius. Masse, 1,989 fois 1030 kg. Le Soleil est l'une des 140 milliards d'étoiles qui composent notre galaxie. Il est situé à sa périphérie, à quelques 28 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Il est l'étoile centrale de notre système planétaire, autour de laquelle tournent dans l'état actuel de nos connaissances 8 planètes, 5 planètes naines et des millions d'astéroïdes. Il représente à lui seul plus de 99,8% de la masse du système solaire. Sa taille est 100 fois supérieure à celle de la Terre. Elle a pu être mesurée précisément grâce au satellite SOHO, observatoire volant dédié au Soleil, lancé en 1995. Le Soleil fonctionne comme une gigantesque centrale nucléaire. Dans son noyau, il transforme l'hydrogène en hélium par fusion nucléaire, dégageant ainsi une quantité énorme d'énergie, 386 millions de mégawatts. La température en son cœur s'élève à plus de 15 millions de degrés Celsius. C'est cette énergie qui a permis la photosynthèse et l'apparition de la vie sur Terre. La surface de cette boule de feu est battue en permanence par des vents très violents qui peuvent atteindre 800 km par seconde. Lorsqu'une tempête éclate, la matière surchauffée est projetée dans les airs. C'est une éruption solaire, les flammes formées alors peuvent atteindre 50 fois la taille de la Terre. Pour celle-ci, heureusement, ces coups de fouet solaires sont le plus souvent inoffensifs et se contentent de nous offrir le spectacle époustouflant des aurores polaires. Mais quand ils sont de grande ampleur, ils peuvent causer des dégâts aux satellites et même aux réseaux électriques. Lors de l'éruption solaire la plus puissante jamais observée, celle de l'été 1859, on a rapporté de nombreux incendies de stations de télégraphie causés par les courants très intenses induits dans le sol. Vieux de 4,7 milliards d'années, ce qui est aussi l'âge de la Terre et de tout le système solaire. Bien qu'il ait déjà consommé 40% de ses réserves d'hydrogène, il a devant lui encore 7 bons milliards d'années de fusion nucléaire. Quand il aura environ 12 milliards d'années, il commencera à changer de structure. La naine jaune se transformera en géante rouge, dont la surface s'étendra au-delà de l'orbite actuelle de la Terre. La géante rouge brûlera son hélium pendant un demi-milliard d'années seulement, puis ses couches externes se répandront dans l'espace pour former une nébuleuse planétaire, berceau de futures nouvelles étoiles. Son noyau, lui, s'effondrera sur lui-même pour former une naine blanche, petite étoile de la taille de la Terre. Encore quelques milliards d'années, le soleil se refroidira complètement. Il terminera alors sa vie en naine noire, cadavre céleste si froid qu'il n'émet plus aucune lumière. Petites informations que je viens de vous lire sont extraites du carnet scientifique de Mathieu Vidard que vous pouvez emprunter à la médiathèque. Astronomie, zoologie, psychologie, chimie, biologie, mathématiques, climat, anatomie, ethnologie, physiologie, linguistique, physique, anthropologie, géologie et météorologie. Tout un carnet, donc sur une liste d'anecdotes, de classements, de fragments encyclopédiques, de chronologie, de dessins. Toute la science dans ce réjouissant carnet de curiosités. Racines des plantes. Les plantes sont apparues sur Terre il y a environ 500 millions d'années. L'arrivée des racines a tout changé pour elles dans la mesure où elles leur ont permis de coloniser de nouveaux espaces en se fixant au sol. Tous les végétaux n'ont pas pour autant de racines. C'est le cas des algues vertes, des mousses, des champignons et des lichens. Les racines permettent à la plante de se nourrir grâce à ses poils absorbants. En puisant dans l'eau des sols les minéraux qui lui sont nécessaires. Ces derniers lui assurent tout à la fois croissance et régulation thermique. On parle de phénomène d'évapotranspiration. Le nombre de ces poils absorbants est très important. Il peut dépasser le milliard avec une densité pouvant atteindre 2000 poils par centimètre cube de la surface racinaire. Cependant, toutes les racines ne possèdent pas de poils racinaires. C'est le cas du cocotier. Les racines ont une vitesse de pousse variable selon les plantes. Elles oscillent entre 3 mm et 2 cm par jour suivant les espèces. Il n'y a pas de lien entre la taille de l'arbre et ses racines. Le séquoia peut ainsi dépasser 100 mètres de haut pour des racines qui s'enfoncent rarement à plus de 90 cm de profondeur. À l'inverse, certains arbustes en savane de moins d'un mètre de haut peuvent tout à fait présenter des racines de 50 à 60 mètres. Quelques chiffres enfin. 13 800 000 racines différentes ont été comptabilisées sous un même pied de seigle. Sous un hectare de sol, on considère que ce sont entre 20 000 et 100 000 km de racines qui se déploient. Égale mc au carré. E, l'énergie exprimée en joules. M, la masse en kilos. C, la vitesse de la lumière dans le vide. Cette équation d'Albert Einstein, publiée en 1905, apparaît dans le cadre de la relativité restreinte.
Thank you.
Alors la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 299 792 458 mètres par seconde, soit approximativement 300 000 km par seconde. Juste avant, vous venez d'entendre un morceau chanté par Billie Holiday et c'était « It's too hot for words ». Ici, c'est les deuxièmes morceaux de Sonny Rollins, « Like Someone in Love ». Ce qu'est la tanorexie. C'est le néologisme inventé pour désigner une addiction comportementale rare, l'addiction au bronzage. Telles des anorexiques qui se trouvent toujours trop gros, les personnes atteintes de ce trouble ne se sentent jamais suffisamment bronzées. D'après les dermatologues, le paraître ne serait pas le seul motif qui pousse les gens à bronzer à l'excès. Le soleil, qui stimule la production de mélanine et colore notre peau, libère également des endorphines, les fameuses hormones du bien-être. Il existerait donc bien une addiction physique au soleil, l'organisme réclamant des doses sans cesse plus élevées, comme il le ferait pour une drogue. The Voice. Des scientifiques autrichiens, tchèques et suédois se sont penchés sur les capacités vocales hors du commun du chanteur Freddie Mercury dans une étude publiée dans la revue Logopedics Phoniatrics Vocology en avril 2016. Les chercheurs, dotés de moyens technologiques performants, ont voulu savoir comment le chanteur parvenait à changer d'octave et de registre aussi facilement. Ils ont d'abord mesuré la fréquence moyenne 117 Hz de sa voix au repos enregistrée lors d'une interview. À l'aide d'une caméra capable de capter 4000 images par seconde, ils ont ensuite filmé le larynx du chanteur suédois Daniel Zanger, Brorsch, imitant la voix de Mercury. Les scientifiques ont d'abord conclu que Freddie Mercury était baryton et non pas ténor comme beaucoup le pensaient. et qu'il possédait un contrôle exceptionnel de sa production vocale. Une habileté rarissime rendue possible grâce à un vibrato au-dessus de la norme. Les cordes vocales du chanteur bougeaient en effet plus vite que la moyenne. Un vibrato oscille normalement entre 5,4 et 6,9 Hz, là où celui de Mercury modulait vers 7,04. Les scientifiques ont montré que la technique vocale de l'interprète de Show Must Go On avait la vélocité d'un ouragan et ressemblait beaucoup à celle des moines tibétains qui font vibrer leur bande ventriculaire pour faire ressortir l'harmonique inférieure. Il utilisait ce que l'on appelle le chant subharmonique. Une technique qui permet de produire plusieurs notes en même temps, en plaçant l'appareil vocal dans des positions particulières, en faisant notamment vibrer certaines parties du larynx. Ces bandes ventriculaires ne sont habituellement pas utilisées dans le chant classique. De voix. La basse va de Fa 1 à Mi 3 pour les hommes. Le baryton va de La 1 à Sol 3 pour les hommes. Le ténor va de Ut 2 à Si 3 pour les hommes. Le contralto va de Fa 2 à Fa 4 pour les femmes. L'alto va de La 2 à La 4, femmes et enfants. Les mezzosopranes va de La 2 à Do 5 pour les femmes et les enfants. Le soprano va de Ut 3 à Ut 5. Femmes et enfants. Le morceau que vous avez entendu avant, c'était Billie Holiday, It's Like Reaching for the Moon. Et celui-ci, c'est Bud Powell, bebop piano player, et c'est le morceau Shown Off qui était composé par Gillespie et Parker. Il y a quelques temps, j'ai rencontré une dame qui participe à une coopérative d'habitants. Alors, ça s'appelle la maison résidence de l'Est lyonnais qui s'appelle Chamarelle. La coopérative d'habitants, un atout pour mieux vieillir. L'association Chamarelle promeut une façon de vieillir mieux et autrement en œuvrant à la création et au fonctionnement de coopératives d'habitants pour personnes retraitées ou préparant leur retraite. L'association Chamarelle aide et soutient la coopérative d'habitants Chamarelle Les Barges à Vaux-en-Velin. L'association Chamarelle se donne pour objectif de concourir à la création d'autres coopératives de personnes retraitées. Sur les ondes de Radio Canus 102.2 dans l'émission Patchworld. Et ce soir, si vous promenez dans les pentes de la Croix-Rousse, ou qui mènent à la Croix-Rousse, pour ceux qui veulent des précisions. Ce soir, vendredi 9 novembre à 19h30, vous avez L'un n'empêche pas l'autre, et à 21h15, Burlingue. Ce sont deux spectacles qui se trouvent au Chalala. C'est un bar à spectacle. Ils font du théâtre, de la bière, de la convivialité, du vin, des concerts, chaleur, comédie, saucisson, amour, expo, poésie, limonade, hypnose, conte, fromage et magie. Voilà tout ce qui se passe entre septembre et novembre 2018 au Chalala. C'est de 18h03 à 1h. Tous les week-ends pour les enfants également, il y a des spectacles. Et l'adresse, donc, c'est 95 montée de la Grande Côte, Lyon 1er. Vous avez également la possibilité de réserver avec réservation à lechalala.com. Et puis une autre info glanée au hasard, j'ai trouvé, je crois, dans un troquet. Combat femme, combat féministe, femme combattante. C'est le 23 novembre 2018 à 19h30 à la Condition des Soies, lutte ouvrière, rétrospective partielle de Carole Roussopoulos, féministe pionnière de la vidéo et réalisatrice de documentaires. Sang. Sur le plan biologique, le sang est un tissu, au même titre que les muscles ou les os. Un homme adulte en contient environ 5 litres. Sa principale fonction est de transporter l'oxygène dans tout l'organisme et d'acheminer le dioxyde de carbone, CO2, vers les sites d'évacuation, reins, poumons, foie, intestin. Il est composé à 45% de cellules, globules rouges et blancs, plaquettes, et à 55% de plasma, le liquide permettant de transporter ces cellules. Les mammifères appartiennent tous au sein de la même espèce à des groupes sanguins différents. Chez les êtres humains, on distingue 4 groupes, 0, A, B et AB. Ces deux derniers étant statistiquement beaucoup plus rares. À cela s'ajoute le rhésus, plus ou moins, selon les individus. Les groupes sont transmis de manière héréditaire selon les lois de la génétique et se répartissent donc de manière inégale en fonction des types de population. Ainsi, les Amérindiens appartiennent-ils presque tous au groupe universel 0 ? Effectivement, la population indienne du Pérou est 100% du groupe universel 0. morceau que vous avez entendu avant, c'était encore Billie Holiday avec le titre Carole Leslie. Ici, c'est de nouveau un Bud Powell que nous entendons. Le titre, c'est Blues in the Closet. Être trop gentil, c'est se faire toujours avoir. Tournesol, le professeur Nimbus. C'est une image d'Épinal que de présenter les chercheurs comme des personnages étourdis, désorganisés. J'avoue que le cliché me correspond un peu. Pour me justifier, je dirais que la distraction dénote une faculté à se laisser emporter par ses pensées qui va souvent de pair avec la créativité, l'inventivité. De ce point de vue-là, mes filles avaient tendance à me ressembler, mais j'étais indulgent car elles étaient très jeunes. Cela dit, il fallait régulièrement mettre un peu d'ordre dans leur petit monde. Lego, coloriage, poupées, déguisements, la maison se transformait très vite en Capharnaüm. Nous avions donc un rituel hebdomadaire qui consistait à demander aux filles de ranger à fond leur univers le dimanche soir avant la reprise du lundi matin. « Allez les filles, vous me rangez vos chambres » ai-je hurlé pour la troisième fois à destination de leur étage. « J'ai pas envie à râler Charlotte comme d'habitude. Si vous ne rangez pas chacune votre chambre, je vous prive de dessins animés. Et s'il n'y a que moi qui la range, je pourrais quand même en regarder ?» demande Da Marine inquiète. Non, je veux que les deux chambres soient impeccables, sinon pas de dessin animé. Marine s'éloigna en soupirant, tandis que Charlotte continuait à jouer avec ses poupées comme si de rien n'était. C'est pas juste, renchérit Marine. Moi, je range ma chambre, mais si Charlotte ne fait rien, je suis privée de dessin animé. Du coup, je me retrouve à l'aider à ranger. Je suis trop gentille. Dans tous les cas, je me fais avoir. C'est David Loapre, créateur de la chaîne YouTube Science Étonnante. Mais qui a attrapé le bison de Higgs? Et autre question que vous n'avez jamais osé poser à voix haute chez Flammarion. Anatome, c'est petit comment? Pourquoi le pastis se trouble-t-il quand on y jette de l'eau? Combien y a-t-il d'étoiles dans tout l'univers? Cro-Magnon, c'est moi? Les premiers hommes, le Big Bang et le boson de Higgs vous intriguent? Vous fourmillez de questions sans toujours oser les poser à voix haute? Ce livre est fait pour vous. Laissez le créateur de la chaîne YouTube Science Étonnante, près de 100 000 abonnés, vous relever ses découvertes préférées. Voilà ce qui est écrit au dos de ce livre que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est David Loapre, qui est fort d'un doctorat en gravité quantique, qui se consacre dorénavant à la recherche appliquée sur les mousses, les verres et autres plastiques. Passionné de vulgarisation scientifique, il crée en 2010 le blog Science Étonnante. Est-il vrai que dans la vie, les gens trop gentils se font toujours avoir ? Nous dit-il. Vaut-il mieux se comporter en toutes circonstances comme un requin ? Ces questions relèvent tant en apparence de la psychologie, mais figurez-vous qu'il est possible de les étudier scientifiquement. Il existe en effet un domaine de recherche appelé la théorie des jeux. À la frontière entre les mathématiques et la psychologie, il étudie les raisons et les stratégies qui poussent les gens à collaborer plutôt qu'à s'affronter, pas seulement dans les jeux, mais aussi dans des situations fort sérieuses. Imaginez que je vous fasse asseoir à une table face à un inconnu. Je pose 10 000 euros à partager entre vous deux en proposant à chacun d'écrire en secret sur un bout de papier soit le mot « partager », soit le mot « voler ». Avec les consignes suivantes. Si vous choisissez tous les deux « partager », le magot est équitablement réparti entre vous deux. 5 000 euros chacun. Si l'un partage et l'autre vole, le voleur prend tout l'argent et l'autre ne reçoit rien. Si vous inscrivez tous les deux voler, vous repartez tous les deux les mains vides et je donne à chacun un bon de cadeau d'une valeur de 100 euros en dédommagement. À première vue, la bonne solution, c'est d'essayer de s'entendre avec l'inconnu pour choisir tous les deux de partager l'argent. Mais comment être sûr qu'il ne sera pas tenté de voler pour tout empocher ? Et vous, ne seriez-vous pas tenté de faire la même chose ? Examinons toutes les situations possibles en raisonnant de manière rationnelle, c'est-à-dire en s'attachant à maximiser vos gains. Si votre partenaire choisit de partager, vous avez intérêt à voler. Comme ça, vous raflez tout. Si l'inconnu choisit de voler, il vaut mieux que vous voliez aussi pour au moins repartir avec le cadeau. Donc, quel que soit le choix de l'inconnu, votre intérêt, c'est toujours de voler. Bien sûr, l'inconnu en face de vous va tenir le même raisonnement et arriver à la conclusion que sa stratégie optimale est toujours de voler. Vous allez donc vous retrouver à voler tous les deux et pourtant nous avons bien dit au début qu'il était évident que la situation optimale c'était de s'entendre. Cette petite mise en situation est simpliste. Il s'agit pourtant du principe d'un jeu diffusé en Grande-Bretagne entre 2007 et 2009, qui répondait au charmant nom de « Golden Balls ». Mais elle montre bien que dans une situation où la meilleure solution est que les deux partagent, la solution vers laquelle les gens vont tendre naturellement sera « les deux volent », comme disait la chanson « What a Wonderful World ». Vous êtes dans Patchworld, messieurs et mesdames, au 102.2 sur les ondes Radio Canu. Tous les jeux ne se valent pas. Vous aurez peut-être remarqué qu'il existe une différence entre le petit jeu que je viens de vous présenter et la plupart des jeux classiques. Prenez le poker. Ce que l'un des joueurs gagne, l'autre le perd forcément et réciproquement. Il n'y a donc aucun intérêt à essayer de s'entendre avec son adversaire pour collaborer. Il en est de même aux échecs ou au Monopoly. Mais dans notre jeu partagé ou volé, la somme totale distribuée varie en fonction des choix respectifs des joueurs. Qu'ils collaborent et la somme totale distribuée sera de 10 000 euros, mais que les deux choisissent voler et ils recevront deux petits bons cadeaux. Nous ne sommes donc pas dans une situation où ce que l'un laisse, c'est l'autre qui le gagne. Les jeux de ce genre sont dits à somme non nulle. Ils ont été théorisés pour la première fois dans les années 50 à travers l'exemple du célèbre dilemme du prisonnier. Dans son esprit, celui-ci est très analogue à partager ou voler, mais il simule une hypothétique situation où deux gangsters interrogés séparément par la police ont la possibilité de balancer leur complice contre une substantielle remise de peine. Ces dernières décennies, les jeux à somme non nulle ont été étudiés par les mathématiciens et les psychologues afin de mieux comprendre ce qui pouvait amener les gens à collaborer ou au contraire à adopter des comportements égoïstes. C'est cette discipline que l'on appelle la théorie des jeux.
Thank you.
Eh bien, c'est à vous de jouer maintenant. Et ce soir, si vous voulez vous promener, eh bien, vendredi 9 novembre, donc, au Farmer, à 20h, il y a un concert de Mel Nelson, le groupe de Titouan. C'est dans les pentes, juste en face de l'Atmo, le Farmer. Et puis si vous aimez le jazz, eh bien il y a un site qui pourrait vous intéresser qui s'appelle Love Big Band. C'est aussi un grand orchestre harmonie jazz qui présente leurs concerts, notamment ils seront le 10 janvier au Palais de la Mutualité sur les compositions de Pierre Baldi, qui est également enseignant à l'ENM de Villeurbanne. Ils ont également des CD, ils ont même leurs t-shirts. Un peu comme à Radio Canut, on a aussi des t-shirts.
Mr. Paganini, please play my rhapsody, and if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you'll simply have to swing it. I said swing it, oh swing it, and don't ding it. Oh, Mr. Paganini, we breathlessly await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you'll simply have to swing it. I said swing it. And scatty wah wah, and what is scatla? We've heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation. But doodle and doodle, yeah, yeah, yeah. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you'll simply have to swing it. And at the final bar, we greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation. Got la do la do la do day. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Go on and spring it. And if you can't spring it, you'll simply have to swing it.
C'est Ella Fitzgerald que vous entendez ici. You'll Have to Swing It, un morceau composé par Coslow. Juste avant, c'était Duke Ellington, Jubilee Stomp. Allez, on termine ce Patch World avec un autre Duke Ellington, Take It Easy. Thank you. Voilà, c'était Patch World tous les vendredis de 16 à 17h sur les ondes de Radio Canu 102.2. Restez sur les ondes de Radio Canu dans quelques instants. Je pense que c'est Lilith Martin et les autres, si je ne me trompe pas d'émission. Elles alternent tous les 15 jours avec une autre émission qui s'appelle On n'est pas des cadeaux. Ensuite, vous aurez Dancehall Social Club, puis les infos Canu. Et puis ensuite, vous aurez Noise Pollution si vous aimez l'hard rock et le métal. Et on finira avec Chez les Arts du hip-hop pour cette fin de soirée sur Radio Canu. The wind may blow and the sun may shine. It doesn't matter when you know it's the last day you're gonna live. Well, I'm gonna tell you. Oh, I'm gonna tell you, the rule is kill or be killed. Kill or be killed. In Blood City, you better keep your hands on your guns. Cause if you're looking for troubles, you can't. Ce soir, en concert, c'est Mel Nelson, le groupe de Titouan, qui jouera au Farmer à partir de 20h. Le Farmer, c'est dans les pentes, en face de l'Atmo. Et vous avez donc à découvrir ces deux lieux. Il y a beaucoup de choses à découvrir d'ailleurs dans les pentes. Quoi d'autre ? Bah, vendredi prochain, le 16 novembre, vous avez Oxymore au Trampolino. C'est à l'espace Écully. Il y a 3 artistes et 3 comédiens et un jury. Alors, si vous regardez les infos de Trio Cosmos, il y aura un événement. Elles font la tournée sur Lyon 7e. Et le samedi 17 novembre, elles seront... de l'autre côté du pont, un bar à côté de la Guillotière. Et également ce même soir, il y aura le groupe Gloria à la Grouverie à partir de 19h30. C'est 5€, 9 rue du Jardin des Plantes. Et au Vorace, à la Croix-Rousse, il y aura, ou dans les pentes de la Croix-Rousse, ou les pentes de Lyon qui mènent à la Croix-Rousse, parce qu'on a toujours des remarques, quoi qu'on dise. Donc je précise pour tout le monde, et pour que tout le monde soit satisfait du vocabulaire, qu'il y aura un concert d'Oxymore, voilà, au Vorace. Et puis ma foi, le dimanche 18 novembre, si vous n'êtes pas trop fatigué, ou si vous avez encore un petit peu d'énergie, eh bien vous pouvez vous diriger à l'Esquif à 14h30 pour une sieste musicale. Vous aurez également le mardi 20 novembre à partir de 20h les temps antiques à la Salvarez au Conservatoire supérieur de Lyon. Et le mercredi 21 novembre, vous avez sur une réservation deux spectacles de théâtre d'ombre. Vous pouvez emmener vos enfants. Ce sera à 10h30 et à 15h à l'Amicale du Futur. Le mercredi 21 novembre également, à 20h, vous aurez un concert de Debussy à la Salvarez au Conservatoire supérieur de Lyon. Allez, je vous laisse entre de bonnes mains, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt et passez un excellent week-end. N'oubliez pas, votre femme n'a point d'oreille.